Carlo, conseiller scientifique. Jean-Louis Missika, vous le connaissez tous, adjoint au prince de la maire de Paris, en charge des grands projets, de l'urbanisme, du Grand Paris, de l'innovation, de l'attractivité économique. Valérie Meyer-Blimont, donc, qui est conseillère de, enfin, qui représente Patrick Ollier, qui est vice-présidente de l'APUR et qui est conseillère métropolitaine. Et puis Benoît Quignon, qui s'occupe de SNCF Immobilier. Donc peut-être, Jean-Louis, je te laisse démarrer, ou Carlos. Donc ce que simplement je vais dire, c'est que les slides qui vont passer derrière, elles passent... Mais je pense que Jean-Louis, tu as assisté aux événements d'hier. Donc la question que je vais vous poser, c'est quoi pour les 50 prochaines années? Quelles sont les directions à prendre? Et donc sur quoi devons-nous travailler l'année prochaine?
D'abord, la prévision est un exercice... extrêmement dangereux, surtout quand il s'agit de parler de l'avenir. Et alors, ne parlons pas des 50 prochaines années. Enfin, je veux dire, nous savons à quel point le monde est devenu plus incertain. Cette incertitude est liée à des facteurs dont certains sont politiques. J'ai eu l'occasion de les évoquer hier. D'autres sont climatiques. Nous savons que les dérèglements climatiques sont de plus en plus importants. À quelle vitesse est-ce qu'ils vont s'imposer à la planète et donc aux villes et avec quel degré de violence et est-ce qu'il y aura une capacité collective de l'humanité à répondre à ces enjeux. Nous savons également que les dérèglements climatiques comme les dérèglements politiques produisent des migrations. Les réfugiés climatiques, il y a des études qui parlent de 300 millions de personnes de réfugiés climatiques dans les 50 prochaines années. Donc vous voyez bien que les problèmes auxquels nous sommes confrontés ne sont que le début du commencement des prémices, des problèmes auxquels nous risquons d'être confrontés en termes de gestion, des migrants. Il y a des sujets dont nous savons qu'ils sont des sujets de longue durée, comme le terrorisme. Quand on fait cet inventaire de toutes les menaces, de toutes les difficultés, de tous les problèmes, quand on sait que les villes-mondes sont les sismographes de ces difficultés et de ces problèmes, nous voyons bien ce qui est arrivé à des villes comme Houston ou comme New York, ce qui est arrivé à Porto Rico. Nous savons que le terrorisme frappe les villes-mondes. Nous savons également que lorsque des réfugiés se déplacent, l'objectif de leur déplacement, ce sont les villes-mondes. Donc nous avons effectivement devant nous un ensemble de sujets qui sont d'une complexité folle, qui réclament à la fois beaucoup de courage, beaucoup d'imagination, beaucoup d'efforts. Nous savons que les temps qui viennent sont des temps incertains et donc il est difficile. Et d'ailleurs, je me faisais la réflexion en écoutant ce matin les interventions des uns et des autres sur cette question du temps, justement. La planification urbaine, par définition, c'est le temps long. D'ailleurs, c'était passionnant de voir ce passage de relais entre les générations qui apparaissaient sur cette scène. J'ai eu un petit vertige quand j'ai découvert que Paris Rive Gauche, ça date des années 80. Moi, je pensais que ça datait des années 2000. Quand on sait qu'aujourd'hui, la direction de l'urbanisme et la PUR m'expliquent qu'on n'a fait que 50% de Paris Rive Gauche et qu'il y a encore 50% à faire, ça donne encore plus le vertige. Hein. Et je dis ça en présence du représentant des SNCF Immobilier qui, lui, est censé quand même bloquer les trains pour pouvoir permettre les constructions. Je me disais ça. Je me disais le problème du temps. Pendant très longtemps, l'urbanisme a été une activité qui s'intéressait à l'espace. Aujourd'hui, elle doit s'intéresser à l'espace-temps et elle doit s'intéresser à tous les temps, c'est-à-dire le temps court, le temps moyen et le temps long, voire le temps très long. Et dans toutes les dimensions, je vais prendre un exemple, l'urbanisme temporaire. L'urbanisme temporaire a longtemps été une réflexion marginale dans le domaine de l'urbanisme. Je pense qu'aujourd'hui, la question de l'urbanisme temporaire, c'est-à-dire de l'occupation de ces espaces interstitiels du point de vue de la temporalité des grands projets, devient une question centrale. L'urbanisme temporaire devient un élément fondamental de réflexion, ce qu'on essaye de faire à Saint-Vincent-de-Paul avec PBA, par exemple, c'est-à-dire voir si jamais on peut capitaliser sur l'expérience des grands voisins pour en tirer des conséquences sur le projet définitif. Et donc on voit bien que, du point de vue des urbanistes, ça change pas mal de choses. Cette manière d'appréhender la gestion interstitielle des espaces avec des durées limitées dans le temps. Il y a un autre point qui me paraît essentiel, c'est cette question de ce qu'on appelle la métropole durable. Métropole durable, le mot durable suppose qu'on est dans le temps long. Mais il arrive que, justement, pour qu'une métropole soit durable, il faut peut-être faire des choses qui sont extrêmement éphémères. Architecture de l'urgence, tout ce qui permet de construire et de déconstruire facilement, une approche qui permet les essais et les erreurs, ce qu'on appelle parfois l'urbanisme piloté par les données, ce qu'on a essayé de faire maladroitement pour le moment sur la place de la Nation avec nos capteurs qui nous permettraient de pouvoir expérimenter des agencements urbains, de les tester dans le monde réel hein, et pas seulement en chambre. Et ensuite de s'apercevoir que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire et de pouvoir revenir en arrière. Revenir en arrière et réessayer, c'est le rêve de n'importe quel architecte et de n'importe quel urbaniste. Pendant très longtemps, ça n'a pas été possible. Je pense qu'on arrive maintenant dans un univers où ça devient, en tout cas, partiellement possible. Et je pense que ça aussi, c'est une dimension que l'on doit prendre en compte. Et toujours sur cette question des temporalités, je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec un ami à moi qui était le patron de l'université Marne-la-Vallée, qui me disait tous les bâtiments qui ont été conçus pour Marne-la-Vallée à l'université ont eu des usages différents de ceux qui étaient prévus au départ. Tous. Et donc, et là, on voit bien cette espèce de choc des horizons temporels. C'est-à-dire, la planification urbaine, c'est du long terme. La science va tellement vite que la planification urbaine ne peut pas être capable de concevoir les outils architecturaux et urbains nécessaires à la science au moment où elle en a besoin, parce que la science a changé plus rapidement qu'on a été capable de construire les bâtiments susceptibles d'accueillir cette activité scientifique. Et donc, ce sujet-là, c'est bien sûr le sujet de la flexibilité, de l'agilité et de la réversibilité du bâtiment et même de l'espace urbain, de l'espace public, de la relation entre l'espace public et l'espace privé. Si vous prenez la révolution qui est en train de se produire dans le monde de l'enseignement et de la recherche, le phénomène des MOOC, la pédagogie inversée, le fait que l'enseignement se fait de plus en plus par la recherche, vous vous rendez compte que tous les dispositifs architecturaux qui ont été conçus comme étant en quelque sorte le fondement de ce que c'est qu'une université, de ce que c'est qu'une école, de ce que c'est qu'un lycée ou un collège, tout ça risque d'être balayé alors même que nous continuons à produire en masse des écoles, des collèges, des lycées et des bâtiments universitaires. Je me faisais la réflexion, je ne devrais pas dire ça parce que c'est un peu triste, mais enfin je me faisais la réflexion notamment sur Condorcet, sur le campus Condorcet. Je trouve que justement cette capacité à anticiper et à être capable de créer des outils suffisamment flexibles pour que n'importe quelle révolution, n'importe quelle disruption dans un domaine d'activité humaine, que ce soit le travail, que ce soit le commerce, le loisir, la recherche ou d'autres, puissent être intégrés dans la pensée urbaine et la pensée architecturale, eh bien, on n'en est pas encore là. Et je pense que ça va être un des grands enjeux, justement, des années qui viennent, un des grands enjeux pour la pure, d'être capable de penser ces temporalités différenciées et tout ce qu'elles impliquent en matière de fabrique de la ville et de pensée urbaine. Voilà, je vais arrêter là parce que je suis déjà un peu long.
Merci Jean-Louis. Et puis si j'ajoute à ça les documents réglementaires, on est mal barré. Donc je vais passer la parole.
Faut oublier les documents réglementaires. On va faire de la blockchain. Il y aura plus besoin de documents réglementaires avec la blockchain.
Je ne sais pas si Jean-Luc Poitevin est encore là. Je ne sais pas si les promoteurs ils pensent réversible, tu sais, dans les trucs financiers. Donc Carlos Moreno.
Alors donc je vais adresser quelques mots dans la prolongation de propos de Jean-Luc par rapport au temps et comment le temps urbain et l'espace urbain, donc aujourd'hui, il faut les voir ensemble, aussi bien dans les temps courts que dans les temps longs. Et je vais réagir aussi à tes propos d'hier, quand tu parlais de cette bataille que je considère est urbaine. Tu parlais de la bataille entre la lumière et l'obscurité, et que je vais essayer de vous étayer au niveau des impacts que ça représente aujourd'hui dans le monde dans les années à venir, et la problématique urbaine et le développement donc des grandes villes mondiales. Je vais être court, mais je suis en train de faire une étude scientifique qui va apparaître au mois de janvier sur justement l'impact des villes-mondes, immigration et nouvelles cultures urbaines. Pour tordre un peu le cou à toutes ces idées racistes et xénophobes sur les grands remplacements et la manière comme nous sommes submergés par des vagues d'immigration qui ne résistent pas une seconde à analyser des chiffres. Donc, derrière, moi, je ne vois pas, mais ce sont les slides qu'on a passés hier, je vais tout simplement essayer d'être factuel. Je m'appuie sur des études de la Banque mondiale, l'OIT, l'INSER, et l'OCDE, en fait, tout un tas d'organismes et mes propres travaux scientifiques. Donc, de manière très courte, nous sommes passés donc, de 6 milliards à 7 milliards à même pas 10 ans et nous allons être donc, autour de l'hypothèse des Nations Unies moyenne à 10 milliards à l'horizon donc, 2050. Cette population mondiale, elle représente sur une centaine d'années, je vais prendre le cas où nous sommes ici à l'Europe, nous eurocentrés, avec une culture eurocentrée, qui a beaucoup de déformations sur les poids géopolitiques et géoéconomiques, sur un continent qui n'a pratiquement pas évolué en 100 ans dans sa population. C'est-à-dire que sur 1950 à 2050, on sera globalement entre 600 et 700 millions d'habitants à peu près. Quand, à côté, nous aurons donc l'Asie qui aura autour des 5 milliards d'habitants et l'Afrique qui est dans une croissance linéaire et qui sera à 2 milliards quand il y a même pas 100 ans, c'était à peine 200 millions d'habitants. Donc ça, c'est des chiffres tout à fait factuels. Si maintenant on regarde donc cette population mondiale, nous savons que le vieillissement de la population, ça sera autour de 10% des populations vieillissantes et que pas loin donc à l'horizon 2050, 19% de la population mondiale va habiter uniquement dans 35 villes. Si on regarde à l'horizon de 2050, sur les 10 premières populations mondiales, il n'y aura qu'une seule de l'axe Nord-Europe, qui est les États-Unis d'Amérique, dévancée par l'Inde, la Chine, le Nigeria, et suivie du Pakistan, l'Indonésie, la République démocratique du Congo, etc. Donc, ce sont des choses factuelles. Et quel est l'impact par rapport à cela, je ne sais pas si on voit derrière, sur la croissance urbaine et l'impact des villes-mondes, c'est que aujourd'hui, quand on regarde les chiffres tout à fait des études, je disais à Jean-Louis, et ça calme un peu les esprits, quand on compare les taux de la croissance urbaine par heure, nous sommes dans les continents européens entre moins 1 et dans les meilleurs des cas, 1, quelque chose, en fait, quasiment, effectivement, nul. Quand nous avons donc Lagos, qui a une croissance mondiale la plus importante, puisque ça sera la quatrième population mondiale dans quelques années, 430 millions d'habitants, avec sa capitale, Lagos, donc, qui sera autour des 30 millions d'habitants, il y a 85 urbains par heure. Nous avons Delhi avec 80 par heure, Dhaka au Bangladesh, 75. Bon, bref, je ne vais pas faire le tour, mais il est dans un des slides que j'ai présenté hier et tout est à votre disposition. C'est-à-dire que le taux de croissance par heure des mégalopoles mondiales, de l'axe asiatique et de l'axe africain, il est en moyenne autour des 75 par heure. Le taux de croissance urbaine en Europe, il est autour donc des 1, le meilleur des cas. Et effectivement, nous avons l'axe sud en Amérique du Sud, donc autour de 20 entre Mexico City, en fait Mexico DF, Rio de Janeiro et effectivement New York garde la main puisque effectivement il a une croissance de mégalopole mondiale autour de 20 habitants par heure. Donc ça c'est, je dirais, extrêmement important parce que quand on regarde derrière les projections de population et dans les grandes villes urbaines, ça nous amène à des prévisions urbaines à 2005 qui ne sont pas des prophéties, hein, c'est des études statistiques, comme on sait faire. Donc vous avez des villes donc, aujourd'hui comme Kinshasa qui seront autour des 70 millions d'habitants. Vous avez donc des villes comme Lagos qui seront autour des 58 millions d'habitants. C'est-à-dire que vous avez une quinzaine de villes qui auront à la période des références de mon étude une population deux fois parfois plus importante que celle qu'aura la France à ce moment-là. Donc ça, c'est, je dirais, un premier point par rapport à cette croissance urbaine. Ensuite, forcément, cette croissance urbaine... Je termine. Trois éléments statistiques. Cette croissance urbaine va de pair avec un phénomène ubiquitaire qu'on a analysé amplement. L'ubiquité, c'est l'accès à la connaissance. C'est l'accès à la maîtrise, c'est l'accès au savoir-faire que Jean-Louis a décrit tout à l'heure. Donc nous, on construit les écoles et les universités quand dans ces pays-là, dans ces villes-là, ils se sont installés des hubs de connaissances technologiques au travers des mécanismes ubiquitaires. Donc il y a un accès à la connaissance qui est de plus en plus forte. Il y a un accès à une classe moyenne qui se développe malgré la misère existante. Et quand on regarde aujourd'hui la problématique, effectivement, de ce qu'on appelle les réfugiés, l'immigration et les dangers que ça représente donc pour la France, je suis désolé de le dire, au niveau scientifique, sur une dizaine d'années, les panels des réfugiés, les panels de la migration dans son ensemble est resté relativement stable. Les quantités de migration la plus importante qu'il y a aujourd'hui dans le monde, c'est 750 millions de personnes. C'est à l'intérieur des pays et essentiellement des pays du Sud. C'est le cas des Landes, c'est le cas de la Chine. On ne peut pas imaginer la croissance urbaine de la Chine quand on a des régions comme Shanghai, Hangzhou, Henshui, qui représentent à elles-mêmes 60 millions d'habitants, rien que cette région spéciale avec le port derrière de Ningbo. La première zone économique mondiale, c'est un réseau des 142 villes. Voilà. Donc, parce qu'il y a une migration, effectivement, de l'ouest vers l'est, des zones rurales appauvries, etc., où il faut même un passeport intérieur pour se déplacer, pour ceux qui connaissent la Chine. Donc, quand on nous dit les taux de migration, 750, donc, sur 750 migrants, l'essentiel de cette migration, elle est interne. Et ensuite, quand on regarde le taux de migration donc, global, la migration aujourd'hui, les principaux flux migratoires sur les 10 dernières années, 60%, c'est du sud vers le sud. Et quand on regarde les chiffres, qu'ils ne peuvent pas tromper, aujourd'hui, il y a plus d'immigration sud-sud que sud-nord. Et c'est logique avec cette étude des croissances urbaines, parce que d'où voulez-vous que sortent les gens qui font une population des 80 urbains à l'heure, à Lagos, à Delhi, à Dhaka, au Bangladesh, ils sont du même sud. Donc la population qui émigre vers le nord, qui est considérée par l'extrême droite raciste et xénophobe une grande menace, en fait, elle est inférieure à la population qui migre de sud-sud. Et les taux de réfugiés qu'il y a aujourd'hui essentiels, il est extrêmement minime par rapport à ce qui arrive ici, puisque la concentration majeure des réfugiés, elle est locale, elle est dans les pays voisins. Je vais vraiment finir donc, pour dire que finalement, donc, quand on regarde ces chiffres-là, et dernier chiffre, 70% de l'immigration qui est venue du sud vers le nord a augmenté des 65% en qualification éducative. C'est-à-dire que nous avons de plus en plus de gens extrêmement bien formés qui arrivent. Et dans des pays dans lesquels cette étude, on a pu les faire une comparative, les Canada, Israël, Irlande et au Portugal, les taux donc, d'insertion éducative est pratiquement les mêmes que les gens du niveau local. Et les problématiques, effectivement, c'est les taux de pauvreté urbaine dès cette immigration qui est un autre aspect, mais d'un point de vue statistique, d'un point de vue peur, on est en train de parler d'un phénomène urbain qu'il faut mettre à sa juste place. On est en train de parler d'un taux inférieur à 2% sur un taux mondial des 3% d'immigration.
Merci beaucoup, Carlos. Donc ça ramène les choses à leur juste valeur et qu'en fin de compte, les fractures les plus importantes que nous avons, bah, ça peut être par exemple celle de la SNCF avec ses grandes lignes de faisceaux ferroviaires qui sont parmi les fractures urbaines soulignées par tous les habitants de la métropole. Donc, ouais.
C'est le responsable de la ségrégation sociale en métropole.
Elle n'est pas sociale, elle est spatiale en tout cas, parce que c'est vrai que ne pas pouvoir traverser, c'est difficile. Ouais. Et on n'a plus les moyens de passer au-dessus comme on l'a fait à Paris-Rive-Gauche.
Voilà.
Et la SNCF, maintenant, s'est ouverte à ça, elle aussi, puisque elle a...
Merci, Dominique, pour voilà, cette entrée en matière. Je ne vais pas forcément plaider coupable. Je vais dire un petit peu d'où je viens et ce que je fais quand même pour vous faire partager... un petit peu nos réflexions justement sur l'avenir. D'abord, moi, je suis un homme de l'urbain, de la transformation des villes et des agglomérations, ce que j'ai fait auprès de Gérard Collomb pendant une quinzaine d'années comme patron des services de la communauté urbaine devenue métropole. Et les discussions que j'ai entendues depuis hier me passionnent parce qu'elles me rappellent effectivement un passé professionnel assez proche et des problématiques finalement assez alors, pas forcément convergente, mais en tout cas qui mérite un débat. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Sur l'avenir et effectivement sur cette question de la coupure, c'est finalement la question qui est posée par toutes les infrastructures. Tout à l'heure, on a parlé des autoroutes urbaines. On a réussi à les éviter à Paris. Et lorsqu'elles sont intervenues, par exemple à Lyon, pour reprendre mon expérience, on envisage maintenant leur déclassement. Je pense en particulier à l'autoroute de Fourvière qui a été une coupure effectivement extrêmement forte à l'intérieur de l'agglomération. Alors pour les trains, malheureusement, je dirais que c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué parce que les infrastructures sont difficilement réversibles. Et comme l'a rappelé tout à l'heure Dominique, la couverture est un objet particulièrement coûteux. Et surtout, là aussi, tout à l'heure, Jean-Louis l'a rappelé, particulièrement long à mettre en œuvre. Je cite simplement un exemple qui va toucher au sujet des Jeux Olympiques. Vous savez que le village olympique est donc du côté de Saint-Denis et qu'on envisage à Pleyel le franchissement du faisceau ferroviaire. Eh bien, pour permettre le franchissement, le sujet n'est pas tellement de créer un pont, mais de trouver le moment pendant lequel on va poser les piles du pont. Et quand vous saurez qu'il y a 1600 trains par jour qui passent là, que ces trains, en fait, la seule période d'interruption, c'est entre 1h du matin et 4h30 du matin, et qu'il faut en même temps régénérer les voies, les caténaires, parce qu'elles n'ont pas été suffisamment entretenues ces 30 dernières années, qu'il faut par ailleurs concevoir et mettre en œuvre la liaison CDG Express, ouvrir une gare, celle de Pleyel, celle de la ligne H qui va rejoindre le nord de l'agglomération. On se dit qu'en 5 ans ou en 6 ans, ça va être particulièrement... Et rénover aussi, tu as raison de le rappeler, rénover la gare du Nord, c'est quelque chose d'un peu compliqué. Alors, comment est-ce qu'on se situe? On se situe là-dedans. Ben, on a d'abord, on a une réflexion sur les questions de mobilité, bien sûr. La mobilité, c'est quelque chose qui va s'intensifier. Il y a deux tendances hein, dont on parle beaucoup aujourd'hui. C'est à la fois l'allongement des distances virtuelles grâce à Internet et puis en même temps, cette envie qu'ont tous nos concitoyens, nous-mêmes d'ailleurs, d'être dans une ville qui soit de la courte distance, qui soit du quart d'heure. On parle de la ville au quart d'heure. Et à mon sens, aucune de ces deux tendances ne va prendre le pied l'un sur l'autre, le pas l'un sur l'autre. Ça va plutôt, au contraire, se combiner pour demander une forme de déplacement beaucoup plus intense. Et il faut évidemment que ceux qui sont en charge des infrastructures les plus lourdes s'adaptent, je pense évidemment à la SNCF, à la fois comme gestionnaire d'infrastructures, comme transporteur, susceptible d'apporter des solutions de mobilité de bout en bout. C'est ce que vous attendez, c'est ce qu'on essaye de fabriquer avec une dimension servicielle, évidemment, de plus en plus importante. Et l'immobilier de la SNCF et les infrastructures de la SNCF, là-dedans, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'on peut faire? La première des choses, c'est que D'abord, c'est quelque chose qui est assez difficilement mutable, y compris sur le plan politique, même si technique et politique aussi, d'ailleurs, parfois, parce qu'il faut s'assurer, évidemment, que lorsque l'on se retire d'un territoire, ça ne se fera pas au détriment de la politique de déplacement des 50 prochaines années. Dans le dialogue que nous avons avec les autorités organisatrices des transports, je pense au STIF, à Île-de-France Mobilité ici, mais dans d'autres endroits, les autorités organisatrices des transports sont aussi vigilantes. Il faut trouver des compromis, il faut arriver à trouver des solutions. Le deuxième point, c'est que nous sommes présents dans des lieux centraux proches des gares, on l'a rappelé tout à l'heure à plusieurs reprises, et que ces sites, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils sont anciens, ils sont existants, il y a une infrastructure relativement lourde et qu'il faut savoir effectivement transformer d'une manière, je pense, beaucoup plus agile que par le passé. C'est-à-dire passer finalement, je vais prendre deux symboles que nous vivons en ce moment avec la ville de Paris, PRG, donc une opération urbaine de très grande envergure, très ambitieuse, qui consiste à couvrir les voies du faisceau d'Austerlitz, et puis quelque chose de différent, qui a une valeur symbolique extrêmement forte, l'emprise, je veux parler de l'emprise de la petite ceinture, où on essaye d'imaginer des formes d'usage différentes avec une réversibilité, puisqu'on doit, le cas échéant, se prêter à un exercice de réouverture de cette petite ceinture, avec un partenariat qui intègre complètement les habitants, les riverains et ceux qui sont au-delà, évidemment, des limites de Paris. Et je pense que ce symbole-là est assez fort et assez significatif, même si ce n'est pas l'essentiel de notre activité, de ce que nous essayons de faire, c'est-à-dire reprendre des espaces, les réinventer, le faire d'ailleurs en ayant en tête deux moyens principaux, me semble-t-il. D'abord, c'est celui d'une forme d'urbanisme d'accompagnement, c'est-à-dire essayer d'accompagner d'abord les édiles, les services de la ville de Paris dans leurs idées, dans leurs projets, donner la parole aux habitants, aux associations, aux acteurs, aux futurs utilisateurs de ces espaces, et puis en même temps un urbanisme de la ressource. Là aussi, on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est comment réutiliser non seulement le patrimoine dans ce qu'il a de plus historique. Ça, on commence à le faire déjà depuis de nombreuses années, y compris à la SNCF, mon cher Jean-Louis, mais aussi les matériaux, tout simplement, ou les formes, ou faire des obstacles, par exemple, en béton ou en métal, des éléments du futur décor de la ville, ce qui n'a pas toujours été le cas jusqu'à présent. Donc, c'est dans cette direction-là qu'on essaye de le faire, et de le faire sur... J'en terminerai là pour ma première intervention, Dominique, sur des terrains qui sont aujourd'hui une forme de richesse, un bien commun pour l'ensemble de la ville de Paris, mais aussi pour l'agglomération francilienne. 70 hectares sur Paris, dont 50 vont être ouverts en lien étroit avec la ville de Paris à l'urbanisation dans le cadre d'une convention que nous avons signée avec Anne Hidalgo il y a à peu près un an, d'ailleurs, à quelques jours près. Et puis aussi des opérations que nous allons engager, que nous sommes en train d'engager ces jours-ci, dans le cadre de la démarche Réinventons Paris saison 2, des espaces vraiment très atypiques qu'on essaye de réinventer. Là aussi, c'est quelque chose d'assez étonnant du côté des Gobelins, du côté de l'esplanade des Invalides. Tout cela pour dire finalement en forme de conclusion provisoire que le travail que nous faisons en tant qu'hommes et femmes de l'immobilier de la CNCF, c'est de redonner une vie nouvelle à ces espaces, de les réintégrer dans la ville et de partir pour se faire des usages futurs. Et donc l'exercice de la prospective pour nous est particulièrement utile, même si nous savons, et ce sera mon mot de la fin à ce stade de la discussion et du débat, d'une part que l'imprévu de toute façon est de règle et que les chocs que vont subir les villes et les grandes agglomérations mondiales, Carlos le disait à l'instant, vont être de plus en plus fortes et qu'il faut l'avoir en tête lorsque l'on conçoit un projet.
Merci Benoît Quignon. Je voudrais avant de... Pardon. Excusez-moi, je laisse applaudir. Hein. Avant de passer la parole à Valérie Meyer-Blimont pour commencer à ouvrir sur la métropole, parce que là, vous êtes tous très raisonnables, peut-être, Jean-Louis, la réaction, la voiture, post-voiture, le train, pas de train, on fait comment? On continue avec des infrastructures, on joue comment?
C'est un sujet qui est vraiment très intéressant et qui est une bonne illustration de ce que je disais sur les différences d'horizon temporel aujourd'hui. On voit bien que nous il y a des vraies divergences entre les différents élus sur ce qui doit être fait en matière de restriction de la circulation automobile. Je pense que là où on peut tomber d'accord et d'un certain point de vue se réconcilier, c'est justement sur la vision à long terme. Il faut se dire, puisqu'on parle des prochaines 50 années, il faut avoir à l'esprit, alors là je vais me lancer quand même dans une prévision, dans 50 ans, il n'y aura plus un véhicule piloté par un être humain dans les métropoles. Voilà. Tous les véhicules seront des véhicules autonomes et donc des voitures robots. Ça va changer énormément de choses. Ça va révolutionner complètement. Là, vraiment, on est dans une, on est dans une innovation de rupture, une innovation disruptive. Pour moi, c'est à peu près équivalent au passage de la voiture à chevaux à la voiture automobile à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Ça veut dire concrètement que nous aurons des véhicules qui ne s'arrêteront jamais ou presque jamais, alors qu'aujourd'hui, un véhicule automobile est immobile pendant 95% de sa durée de vie et mobile pendant 5% de sa durée de vie. Ce qui veut dire qu'il n'y aura plus de stationnement en surface et sans doute plus beaucoup de stationnement en sous-sol, et que donc il faut penser à la reconversion de centaines de milliers de mètres carrés de parking. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, avec Anne Hidalgo, nous avons lancé cet appel à projet Réinventer Paris 2, les dessous de Paris, parce que cet appel à projet est un signal envoyé aux professionnels qu'il va falloir se mettre à penser différemment les sous-sols parisiens. Cela veut dire également des tas de choses. Aujourd'hui, l'espace public est monétisé par le paiement du stationnement. Si vous n'avez plus de stationnement, il faut repenser complètement la monétisation de l'espace public. Cela veut dire que ce qu'on appelle le MaaS, Mobility as a Service, la mobilité comme service, va devenir la quasi-totalité de la mobilité dans la métropole. La gestion des flottes de véhicules va être l'activité principale des opérateurs de mobilité, que la frontière entre transport en commun et transport individuel va disparaître, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus aucune solution de continuité du transport individuel jusqu'au transport de masse, et que la question de la subvention publique va se poser, puisque d'ores et déjà, on commence déjà à subventionner légèrement les transports individuels. Après tout, qu'est-ce que Vélib et Autolib, si ce n'est de la subvention publique de transport individuel? Mais de plus en plus, la question de savoir qu'est-ce qu'on subventionne va se poser. Et last but not least, comme l'essentiel de la gestion des mobilités se fera à travers des plateformes de gestion de flotte de véhicules et que ce sont les systèmes opérationnels et les données qui deviendront le cœur du métier, à qui appartiendront ces données? Il faut se représenter un scénario noir où, par exemple, Uber devient l'opérateur principal de la mobilité. Excuse-moi, je termine très vite. Devient l'opérateur principal de la mobilité dans une ville. Et à ce moment-là, le pouvoir de la plateforme privée en matière de gestion des déplacements sera largement supérieur à celle du maire ou du gouvernement local. Il faut qu'on se préoccupe de ces sujets-là aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, si jamais on veut être capable de garder une maîtrise et une certaine défense de l'intérêt général face à cette révolution, cette révolution des mobilités. J'ajoute que, bien évidemment, puisque tu m'as parlé des trains, la question de l'impact qu'aura ces nouvelles formes de mobilité sur le dispositif existant, c'est-à-dire les trains, les métros, les tramways, les bus, les RER, enfin les métros express, cette question est complètement sur la table. Nous savons absolument ce que nous savons, c'est qu'il y aura un impact. Voilà. Et que et que bien évidemment, quand vous dites à un citadin, qu'est-ce que vous préférez à coût égal, un déplacement individuel porte à porte ou un déplacement collectif de station à station, bah, je pense que la réponse, on la connaît par avance. Et que donc, bien évidemment, là, la question de la défense de l'intérêt général va devenir une question extrêmement sensible. Donc voilà ce que je voulais dire. Et surtout, ce qui me paraît essentiel, c'est que tout ce que nous faisons aujourd'hui en matière de politique de mobilité à Paris, et j'espère qu'un jour nous serons suivis par la région, eh bien, tout ce que nous faisons s'explique par cette perspective-là, par le fait que nous allons changer de monde en matière de mobilité.
Alors ça, si ce n'est pas ambitieux, changer le monde en matière de mobilité, peut-être une petite précision, donc la ligne 16 est bien confirmée, et Olivier Klein est nommé président de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, le maire de Clichy-sous-Bois. Voilà. Par contre, la 17 et la 18, rien n'est dit. Alors, moi, je voudrais juste dire que, avant de passer la parole à Valérie, hier, on s'est vraiment posé la question, et on en discutait avec Carlos, que, en fin de compte, le véhicule autonome va être moins cher que le métro. C'est une possibilité comme ça. Voilà, ou moins cher que le bus, enfin, peu importe. Et à un moment, il y a donc la bascule qu'évoquait Jean-Louis Missika, qui font qu'il y en a des questions énormes, en fait, qui sont devant nous. Et je pense que Valérie, c'est vraiment la perche métropolitaine, parce que, pour le coup, si on peut accepter que, dans Paris, par exemple, la ville du quart d'heure, qui est celle qui conditionne la marchabilité, la marche à pied, l'exposition Haussmann parlait de la marchabilité, tout le monde a retenu ce terme comme étant le garant, je dirais, d'une ville piétonne. Cette marchabilité, la créer de toutes pièces, c'est très très difficile aujourd'hui. Donc comment on fait dans la métropole, Valérie, et comment on avance? Alors je sais qu'il est 1h05, on va aller jusqu'à 1h15 pour que vous puissiez vous exprimer après l'expression de Valérie. Et ensuite, je pense qu'on arrêtera la séance, parce que je sais qu'après vous allez tous partir déjeuner, et c'est très désagréable pour ceux qui sont installés sur la scène de vous voir partir.
Merci Dominique, je serai assez brève. Moi, ce que je souhaiterais, c'est apporter un témoignage. La métropole du Grand Paris arrive en tant que nouvel entrant au sein de la PURE. Donc je suis très heureuse d'en être la vice-présidente. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il est bien évident que tout ce qui a été dit est bien évidemment partagé par la métropole du Grand Paris. Tous les sujets de mobilité, alors dont la métropole n'a pas compétence, mais qui ne l'empêche pas d'avoir la compétence pour réfléchir sur le sujet. D'ailleurs, nous le faisons avec Jean-Louis Missika, avec la MIF, notamment Stéphane Baudet et le Forum métropolitain du Grand Paris, puisque nous allons contribuer à rédiger un cahier d'acteurs dans le cadre des Assises nationales de la mobilité. Donc tous ces sujets, toutes ces urgences, finalement, la métropole, bien évidemment, va y être confrontée. Et dans le cadre de cette ville qui est aujourd'hui une ville qui déborde, hein, de son périphérique, de son A86 jusqu'à la francilienne, il est bien évident que les défis doivent être abordés de façon différente selon les territoires. Et la métropole du Grand Paris, dans ce cadre là a un rôle particulier à jouer. À partir du 1er janvier 2018, elle aura la compétence, alors je prends mon souffle, en matière d'aménagement de l'espace métropolitain, de développement et d'aménagement économique, social et culturel, et de protection et de mise en valeur de l'environnement et de la politique du cadre de vie. Donc voilà un beau défi à relever. Il n'empêche que la métropole n'a pas attendu de s'attaquer à ces défis, et j'en parle avec beaucoup de bonheur aussi, puisque je suis en charge du projet Inventons la métropole du Grand Paris. Et là, on est vraiment allé sur les territoires pour construire une métropole qui s'adresse à ses citoyens dans le cadre de diagnostics partagés, car c'est véritablement cela que l'on doit construire aujourd'hui dans le cadre métropolitain, des diagnostics qui soient partagés, qui s'adressent à tous et qui, dans le cadre donc d'une métropole, créent véritablement la perméabilité des espaces. Parce que tous les défis qui ont été évoqués aujourd'hui, ils ne seront résolus que par la perméabilité des espaces. Et la perméabilité, elle passe aussi par la mobilité, qui est un défi essentiel en matière bien évidemment d'accès à la connaissance, à l'emploi, mais aussi de déplacement, de loisirs. On doit être libre de se déplacer, on doit concevoir finalement un droit à la mobilité pour aller explorer ce territoire métropolitain qui doit être ouvert à tous. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est un des beaux défis. On s'appuiera bien évidemment sur la PURE et sur tous les travaux dans le cadre d'une commande politique qui sera forte, une commande politique qui sera forte parce que justement, et c'est la force de la métropole du Grand Paris, c'est la zone dense. Hein, là, je pense que personne ne peut le remettre en cause aujourd'hui. C'est une zone dense qui est construite à partir de ces communes et de ces maires. Donc tous ces maires qui ont participé à l'appel à projet Inventons la métropole du Grand Paris ont bien compris qu'en étant tous ensemble, et Anne Hidalgo l'a dit, on est beaucoup plus intelligent que quand on réfléchit tout seul dans son coin. Et je crois que cette identité métropolitaine qui va se construire, on ne peut pas évidemment dire ce qu'elle sera, même pas dans 3 ans, 4 ans, il faut l'aborder dans le cadre d'une gouvernance qui soit renouvelée. Et ça, c'est particulièrement important. Le projet Inventons la métropole l'a fait, un partenariat inédit entre l'État, la Société du Grand Paris et les maires. Cette gouvernance, elle doit être non seulement renouvelée, mais elle doit être capable de s'adapter aux changements que l'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Et je crois que c'est dans cette perspective que les différentes temporalités et bien évidemment les écueils qu'elles dressent devant nous peuvent se réconcilier. Voilà, donc moi je plaide pour l'agilité et la réconciliation dans le cadre d'une gouvernance renouvelée que je pense la métropole du Grand Paris est tout à fait apte à porter. Merci.